Radio Okapi. Okapi. Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Bienvenue mesdames et messieurs dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons parler des inondations, comment prévenir les inondations et surtout les dégâts qui peuvent s'en suivre. Nous, on se souvient, l'année prochaine, il y a eu beaucoup de... l'année dernière, beaucoup de villes ont été touchées par des inondations, particulièrement la ville de Kinshasa, où il y a eu plus de 150 morts. Et puis, beaucoup de dégâts ont été enregistrés à cause de ces inondations. Et d'autres villes du pays également ont été touchées par cela. Eh bien, alors, est-ce qu'on doit toujours être surpris par les événements ou bien on peut arriver quand même à organiser les choses, on peut prévenir ces genres de situations? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission avec l'ingénieur Vanel Mudimbi. Il est urbaniste. On aura également Monsieur Michel Oyumbu, qui est ingénieur en bâtiment et travaux publics. Merci de votre fidélité à Okapi Service. Le sujet vous intéresse, vous voulez participer ou partager les témoignages par rapport à ce qui s'est passé dans votre milieu de vie. Composez les 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapuku assure la réalisation et la coordination. Micro jeudi, Daniel Kachama, Jean-Claude Siala à la mise en onde.
Eloko elingi moto atako bopekisi boko kamwa atako bokei na ndako ya nganga bolingo eloko ebandi na damu ye na eva nalakisi boye po boyeba nalembi kobomba la vi na ngai na Clara Marie nakangi motema mikolo mpe mingi nakoki lisusu te o botika na bimisa moto atako bopekisi boko kamwa atako bokei na ndako ya nganga bolingo eloko ebandi na damu ye na eva nalakisi boye po boyeba nalembi kobombala vi na ngai na Clara Marie nakangi motema mikolo mpe mingi nakoki lisusu te o botika na bimisa motema ya moto epa ya pesa na bolingo kopekisa te okotikala na soni na soni na soni bolingo ya kobomba soki ekomi makasi ekoningisa mboka o bato bakoyeba
Vous écoutez la radio Okapi, une voix pour tous. Je l'ai annoncé tout à l'heure à l'introduction que nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission des inondations dans les grandes villes. Comment lutter contre cela? Vous savez, plusieurs villes de la RDC ont été dernièrement touchées par des inondations. Des fortes pluies qui se sont suivies ont rempli le fleuve et les rivières. Des nombreux quartiers et artères ont été envahis par les eaux. C'est là... cause parfois des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. C'est le cas par exemple de la pluie torrentielle du 13 décembre à Kinshasa. qui avait causé plus de 150 morts, la route nationale coupée en deux, des éboulements qui ont détruit les maisons et autres, etc. Des gens qui sont morts par électrocution, etc. Alors comment prévenir les inondations et surtout les dégâts qui peuvent s'en suivre? Voilà, l'ingénieur Vanel Mudimbi. Et dans ce studio, il est urbaniste. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Alors, les inondations, comment les prévenir?
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Déjà, je pense que avant de penser à d'entrer dans le vif du sujet pour parler de la prévention par rapport aux inondations, il faut déjà parler des types d'inondations. C'est très important. Ça va donner une idée à ceux qui nous suivent, qui ne sont pas forcément techniciens, pour comprendre qu'il y a plusieurs types d'inondations. Je dirais que nous avons des inondations qui sont des types lentes. Nous avons des inondations brusques, des inondations éclairs, des inondations marines. Les inondations que nous subissons à Kinshasa sont catégorisées parmi les inondations qu'on peut appeler des inondations éclairs, des inondations brusques. Cela survient généralement quand il y a une forte pluie et sur une zone propice, une zone assiette foncière propice à subir ces types de catastrophes. Alors, je crois que pour penser à comment prévenir ces inondations, il faudrait déjà parler de causes. Qu'est-ce qui est à la base de ces inondations? Les inondations sont causées par plusieurs facteurs. On peut notamment parler des fortes pluies, des pluies averses, mais aussi et surtout une urbanisation anarchique, non structurée. Parce que à cela suppose que les aménagements ne sont pas faits de manière rationnelle, ne prennent pas en compte toute la complexité topographique et toutes les exigences techniques qu'il faudrait et les normes en matière d'aménagement qu'il faudrait prendre en compte pour aménager un site. Donc pour la ville-province de Kinshasa, nous pouvons dire que le constat est clair. Nous subissons ces inondations qui deviennent récurrentes.
Et à cause de l'urbanisation anarchique.
Essentiellement à cause de l'urbanisation anarchique. Parce que.
Et c'est quoi l'urbanisation anarchique?
Bon, l'urbanisation anarchique, en termes simples, on peut dire, c'est quand tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, en matière de construction. C'est les désordres. C'est-à-dire que nous naviguons en vue. Il n'y a pas un outil.
Il y a trop de constructions anarchiques.
Bref, il n'y a pas un outil d'urbanisme et de référence auquel nous tous, il y en a, mais on ne respecte pas les prescriptions urbanistiques qui doivent normalement régir l'aménagement au sein d'une ville. Donc, pour la ville de Kinshasa, nous avons un plan d'aménagement qu'on appelle les SOSAC, qui aujourd'hui souffre par son manque d'application. Et aussi, il faudrait prendre en compte le non-respect des règles en matière d'urbanisme, c'est-à-dire les plans est là, mais les plans sont accompagnés toujours d'autres prescrits en forme de textes qui sont de lois, donc qui doivent s'imposer à tous, qui malheureusement ne les sont pas. Et c'est ce qui cause, c'est ce qui prédispose la ville de Kinshasa, notamment à ces problèmes. Mais le non-respect des règles d'urbanisme, c'est aussi un élément. Mais aussi, faudrait dire que la volonté politique doit être réelle, parce que l'urbanisme dans une ville ne peut pas fonctionner si l'autorité, que ce soit au niveau urbain ou au niveau provincial, pour ce qui est le cas de notre pays, ne prend pas les choses à bras le corps. Je ne vais pas dire par là que les autorités en place ne prennent pas chose à bras le corps.
Mais quand, par exemple, il y a une forte pluie, on voit le boulevard du 30 juin inondé, l'avenue des Huileries inondée, ex-24 novembre, est-ce que c'est parce que les canaux d'évacuation des eaux des pluies, les dimensions ne conviennent plus? Ou bien, les gens ont construit sur les collecteurs, c'est bouché, etc. Expliquez-nous, on voudrait comprendre.
Oui, justement, monsieur. Donc, je crois que vous avez vraiment épinglé la chose de manière précise. Le grand problème, vous allez vous rendre compte qu'il y a de cela quelques décennies, quand la ville de Kinshasa a été inondée, les centres-villes à Gombe étaient relativement épargnés. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus de discrimination, si je peux dire. Que ce soit les centres-villes ou les quartiers périphériques, quand il y a inondation, c'est tout le monde qui subit les conséquences.
Ouais.
Donc c'est dû essentiellement à quoi? C'est parce que les ouvrages d'assainissement, quand ils ont été aménagés à l'époque essentiellement coloniale, Ces ouvrages d'assainissement ont été aménagés pour un nombre d'habitations, je vais dire, connues, et parce qu'ils ont été dimensionnés en fonction de ces nombres d'habitations qui étaient prévus, calculés, et on pouvait estimer à peu près la quantité d'eau que ces ouvrages d'assainissement devraient drainer. Mais aujourd'hui, nous venons d'en parler, à cause de l'urbanisation anarchique, on construit n'importe où, n'importe comment, ce qui veut dire que même les zones qui normalement ne devaient pas être construites, ou après chaque pluie, les eaux devraient s'infiltrer de manière naturelle sur le sol, à cause des bourrages internes, je veux dire par là, le construction qui déborde dans les parcelles, c'est-à-dire on n'a pas respecté ce qu'on appelle le coefficient d'occupation du sol. C'est-à-dire que peut-être que si la réglementation prescrit que dans votre zone, vous pouvez pas occuper plus de 60% plus de 40% de l'espace dans votre parcelle. Ça veut dire que le reste de l'espace est prévu notamment pour que quand il y a pluie, que les eaux puissent être domiciliées chez vous, que les eaux ne se déversent pas au niveau de la voie publique.
Oui, oui.
Mais après, quand tout cela est respecté,
les gens construisent des grandes maisons.
Voilà.
Et quand il pleut directement, les eaux de pluie
se déversent sur la voie publique.
Sur la voie publique.
Ce qui signifie que c'est induit quoi. C'est induit que les ouvrages d'assainissement, si ça existe, j'ai dit, parce que nous savons que la ville de Kinshasa,
il y a des quartiers où il n'y en a pas.
Oui. Si ça existe, ces ouvrages d'assainissement ne sont plus au finish dimensionnés pour recevoir cette quantité d'eau qui vient. Logiquement, ça fait quoi?
C'est ça que les gens appellent communément terrassé.
Voilà, terrassé. Les ouvrages d'assainissement, les terrassés, les caniveaux.
Les tranchées, c'est ça?
Voilà, les terrassés, les caniveaux, et ça déborde. Mais à cela aussi s'ajoute une autre action. Comme ça, moi, j'ai dit toujours que les responsabilités sont partagées. C'est aussi nous, les populations. Quand la population ne prend pas en compte le fait que ces ouvrages, même si elles sont insuffisantes par rapport à l'étendue de la ville de Kinshasa, son assiette foncière, mais quand elles existent, nous devons faire l'effort de préserver.
De les assainir. On ne doit pas jeter les immondices.
Voilà. Maintenant, les gens ne comprennent pas forcément cela. Les gens jettent les immondices dans les caniveaux.
Et ça bouche les caniveaux. Et quand il y a pluie, c'est fini, il y a débordement.
Voilà. Déjà, ces caniveaux, on était en train de dire, à l'heure actuelle, ne sont plus dimensionnés pour recevoir la quantité des eaux de pluie que la ville de Kinshasa, la quantité des eaux qu'elles reçoivent à cause, nous l'avons évoqué,
de la démographie, tout ça,
Et maintenant, cela vous ajoute encore le fait que vous les bouchez. Donc, vous multipliez vous-même votre problème par 10. Et nous connaissons maintenant aujourd'hui, nous subissons des pleins fouets, des conséquences de cette inconscience collective par rapport à la protection des ouvrages publics, des ouvrages d'assainissement.
D'accord, on va accueillir les auditeurs. Maître Machaka de Lumbashi, Malonga nous appelle des Bandundu et Baudouin de Kasumba Lessa. Maître Machaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bonjour.
Et alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux inondations?
En tout cas, monsieur Jody, merci de m'avoir accordé la parole. Vous savez, les histoires là des inondations, la responsabilité est partagée, comme vient de le dire notre invité, puisque aujourd'hui, il y a les services habilités d'urbanisme qui donnent l'autorisation de bâtir. Et quand ils donnent l'autorisation de bâtir, ils ne tiennent pas compte, ils n'orientent même pas les gens là qui construisent, que vous devez construire de telle manière, pour éviter de tels dégâts ou bien de telles catastrophes en cas de, par exemple, de la pluie. Et il suffit seulement de verser l'argent de l'autorisation de bâtir, c'est fini. Ils ne sont pas là pour orienter la population, les gens pour comment construire. Ça, c'est la responsabilité des services, l'habilité de l'urbanisme. Maintenant, quant à un autre État, puisqu'à l'époque, il y avait les chefs de quartier, il y avait les chefs d'avenue, qui donnait les ordres à la population d'écrire les caniveaux, ce qu'on appelait les caniveaux. C'est-à-dire, il y avait les salongos, il y avait une journée spéciale. Chaque samedi, les chefs de quartier, chefs d'avenue passent, ils surveillent comment est-ce que les gens sont en train d'écrire devant leurs parcelles. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, la population aussi, nous ne savons pas encore respecter les normes de construction. Nous entendons tous que l'État vient faire pour nous. Or, pour le problème des caniveaux, là, c'est la conscience professionnelle. Comme nous ne sommes pas conscients, nous, le peuple congolais, c'est l'État qui devrait être derrière nous en sanctionnant les gens qui construisent anarchiquement et les gens qui ne parviennent pas à faire les salongos là pour tirer d'abord devant leurs parcelles, en tant que l'État puisse s'en charger pour les grands caniveaux là dont les eaux des avenues se versent. Alors, c'est pour moi, je vois que la responsabilité est partagée. Mais les plus grands responsables, c'est quoi? C'est l'État, puisqu'il faut sanctionner les gens qui construisent anarchiquement, les gens qui déversent les immondices dans les tranchées lorsqu'il pleut.
D'accord.
Alors, moi, ma petite contribution sur les sujets, monsieur Jules.
Merci, maître Machaka. Monsieur Malonga de Bandounouville, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Jodi et mes élèves.
Merci. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux inondations?
Jodi, là, il faut que nous comprenions d'abord. Je salue d'abord notre invité, puisqu'il vient de nous détailler vraiment les qualités et les formes d'inondation. Mais j'ai dit ceci, l'inondation, c'est un fait naturel. Ça, il faut savoir. C'est un fait naturel. Il n'y a personne qui provoque l'inondation. Mais il y a des personnes qui peuvent aussi, si elles se concentrent jalousement, nous pouvons dévier ces catastrophes. Qu'est-ce qui manque ici chez nous, surtout là, à Kinshasa, là, hein? C'est un problème d'organisation et de la concentration, je dis. Il y a le ministère chargé à protéger les heures, mais ce ministère voit, assiste et ils sont financés, mais ils ne font rien. Toujours on connaît la population, toujours on fait ceci. La population comme les enfants dans la maison, si les parents ne veillent pas sur ses enfants, les enfants feront de ce qu'ils veulent. Mais nos parents, c'est le gouvernement, le pouvoir. Le pouvoir est là, le pouvoir provincial est là. Qu'est-ce qu'ils entendent pour bien organiser ou bien imposer le civisme environnemental? Puisque si la population est éduquée en âme et en conscience, pourquoi nous apprécions les Occidentaux aujourd'hui, hein? Puisqu'ils ont bien éduqué.
Malonga, est-ce que là-bas aussi, à Bandounouville, il y a eu des inondations?
Bon, dire inondation, non, puisque nous avons seulement une rivière ici, Kouilo, qui passe ici en bas. Mais ici, à Nancy, il y a vraiment une forte pluie. Il y a des eaux de la pluie qui déversent, qui entrent dans des parcelles. Et après la pluie, un certain temps, ça s'achève. Ça aussi, ça vient pour, au manque de ce que je viens de dire, il n'y a pas de terrasse qui absorbe ces eaux de la pluie et achemine sans fil la rivière. Le service, l'eau VD là. La voie passée, le gouvernement avait financé l'eau VD. Mais je dis, si vous venez ici, vous arrivez ici, et vous voyez la qualité de travail que l'eau VD a fait. Vraiment, c'est malheureux.
Bien, alors, merci. Oui, merci Malonga. Oui, on a retenu, vous avez dit que la population est comme les enfants à la maison. Donc l'État, c'est comme un parent qui doit donner les directives. Et puis bon, c'est lui qui ne respecte pas, subit la sanction. On va accueillir Baudouin de Kasumbalesa. Bonjour.
Bonjour, merci M. Jobi. Monsieur Baudouin, Kasumbalesa, en tout cas merci pour la thématique du jour.
Quelle est votre préoccupation, Baudouin?
Oui, je pense que tous les intervenants avant moi ont presque tout dit. Je pense que ce que je vais ajouter ici, le problème d'inondation, c'est vraiment de la responsabilité pour le moment exclusive de l'État. L'État congolais n'est plus responsable comme il était avant. C'est comme le cas ici chez vous. Je peux vous donner un témoignage. Bonjour. Je peux vous donner un témoignage. Ici, on avait loti un site là appelé Nyokoyo. Les gens qui avaient loti là, c'était l'entreprise Odimico. En lotissant là-bas, il y a une petite rivière là qui est juste à côté de ce lotissement. On avait laissé une zone là de plus ou moins 10 hectares, hein, je pense, hein, tout au long de cette rivière, qui ne devrait pas être lotie. Et les gens là ont loti là où ils devraient lotir, et nous avions pris des parcelles là-bas et qu'on sort. Maintenant, par après, quand on a donné la latitude au service du cadastre de passer encore dans ce même lotissement pour faciliter les documents aux gens qui avaient déjà acquis leur parcelle, le problème s'était commencé par là. Cadastre, en ayant ses services en main, il a commencé maintenant à lotir là où le service de Sodimico avait interdit de lotir. Et pour le moment, comme je suis en train de vous dire là, l'inondation, chaque fois qu'il y a la pluie, nous déplorons ce genre de choses. Or, le service qui était censé nous protéger, qui était censé protéger cette zone-là, n'a pas fait son travail. Il est allé à l'encontre de ce qui a été préparé par les techniciens de la Sodimico. Donc, je voudrais dire quoi par là? Que le problème ici relève de nos services techniques, les services d'urbanisme, de cadastre, et même les chefs de quartier, les mêmes des chefs de cellules et consorts. Donc ces services-là, en tout cas, ils ne servent absolument à rien. Vous allez voir,
Par exemple, toujours le même témoignage du côté de la Nyoko. Il y a des avenues de 15 mètres. Et les 15 mètres, comment on les a préparés? On a préparé, je crois, 2 mètres de part et d'autre, 2 mètres et demi ou 2 mètres et demi de part et d'autre pour faire 5 mètres de part et d'autre de l'avenue. L'endroit où faire les...
L'avenue de 15 mètres, et il y a, on a, il y a des canaux d'évacuation des eaux de pluie.
Oui. Mais vous allez voir, là, c'est la ville de 15 mètres, on a déjà prévu, sur le plan, c'est bien prévu qu'il y ait des caniveaux, hein, des canaux de canalisation des eaux de pluie. Maintenant, les gens qui ont acheté ces parcelles là-bas par cupidité, je ne sais pas moi, par, si je peux dire quoi, par mauvaise foi tout simplement. Vous allez voir quelqu'un, l'avenue qui était de 15 mètres, il s'arrange de part et d'autre les voisins, de prendre de 5 mètres celui-ci, l'autre de 2 mètres, et on rétrécit l'avenue jusqu'à 7 mètres, ouais, voire même 5 mètres. Or, celui qui avait l'outil,
c'est là. Il sait pourquoi il avait fait prévu ces 15 mètres-là.
Oui, c'est pour savoir que non, à la longue, il y aura le problème d'inondation. Il fallait que chacun devant son avenue puisse créer un caniveau, puisse créer une canalisation pour... vu que les eaux soient évacuées. Maintenant, on a rétréci les avenues dans ce sens-là. Donc, je pense que l'État est impuissant quant à ça. C'est un problème général, ce n'est pas seulement ici. Je pense que c'est partout, ce problème-là se passe. Les gens sont animés de mauvaise foi et ils sont tentés de défier l'État. Or, l'État, on ne les défie jamais. L'État doit prendre ses responsabilités et revenir sur le plan cadastral qui a été fait pour tout lotissement afin que ce problème-là puisse nous laisser des... puisse nous mettre quand même à l'aise. Sinon, nous en souffrons partout.
Donc, merci. Merci Baudouin de Kasumbalesa. Ingénieur Vanel, à vous la parole. Vous avez suivi votre réaction.
Oui, je pense que je vais essayer de synthétiser par rapport à tout ce que les auditeurs viennent d'évoquer. Je crois que dans tout ce que nous venons d'écouter là, il y a un problème qui revient. C'est le problème du respect et de faire respecter les règles, les prescrits en matière d'urbanisme. Que ce soit par rapport à l'intervention du premier intervenant qui a parlé de l'octroi des permis de construire, anciennement appelé autorisation de bâtir, sans qu'il y ait un outil d'urbanisme et des références. Nous devons savoir une chose. Quand on donne le permis de construire aujourd'hui, parce qu'à l'époque on appelait ça autorisation de bâtir, quand on donne les permis de construire, les services d'urbanisme doivent normalement les faire en respectant des éléments que je vais citer, quelques éléments phares que je vais citer. Et premièrement, les plans d'urbanisme par rapport à la zone intéressée pour la construction, pour l'érection du bâtiment. Mais c'est sur base de ça que vous vous référez, parce que c'est les plans.
Il faut qu'il y ait un plan.
Justement.
Parce qui détermine, par exemple, ici, il faut des maisons.
On appelle ça des affectations. Ces plans doivent déterminer les affectations prévues pour chaque zone, chaque section de la ville, que ce soit la ville ou même du village, parce que même les villages doivent avoir des plans. Quand on n'a pas ces plans, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on délivre ces permis de construire sur base de quoi? Bon, nous, on nous dit que, l'absence des outils d'urbanisme et des références, il faut se référer aux règles d'aménagement, aux règles générales en matière d'aménagement. Mais est-ce que même le fait de se référer à ces règles générales en matière d'aménagement est pris en compte? J'en doute fort, parce qu'aujourd'hui, il y a, je crois, le deuxième intervenant qui en a parlé. Aujourd'hui, nous voyons des constructions être érigées aux abords, à la lisière même des cours d'eau. Donc, vous avez un cours d'eau, une rivière, et sur son lit, dès que la rivière, vous arrivez au niveau du lit mineur même pas les lits majeurs, au niveau du lit mineur de la rivière, on commence à construire. Les gens oublient. Je ne sais pas s'ils oublient, ou s'ils oublient, bien s'ils ne savent pas.
Oui, ils savent pas, oui. Ils sont ignorants.
Ils sont ignorants. Mais les services censés faire respecter, faire appel à ces prescrits urbanistiques doivent le savoir, que nous avons la loi dans ce pays. C'est vrai, on peut dire que c'est une loi, la réglementation en matière d'urbanisme pour les pays date, mais elle est là. Nous devons quand même nous référer à cette réglementation. La loi dit clairement ceci. On ne peut pas construire sur les lits d'un cours d'eau. Elle précise que le niveau le plus élevé qu'atteint ces cours d'eau en période de crue doit être le niveau de référence plus de 5 mètres. Plus 5 mètres, ça dépend des cours de que ce soit si c'est une rivière ou un fleuve, on peut aller même au-delà des 25 mètres. Mmh. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer
à construire.
Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens construisent sur les lits des cours d'eau.
Et quand s'il y a débordement, c'est fini, ils seront touchés.
Ce qui est grave pour la plupart, quand vous allez leur poser des questions, ils vont même vous présenter un permis de construire. Mais vous vous dites, ils l'ont eu comment?
Avec la complicité de certains agents véreux de l'État.
Bon, moi je ne sais pas.
Généralement, c'est ce qu'on rapporte. Hein.
Oui, moi je ne sais pas si c'est cela. Mais seulement moi je constate que la réglementation en matière d'urbanisme n'est pas respectée. Or, ceux qui sont censés faire respecter cette réglementation, c'est justement ces gens qui travaillent dans les services d'urbanisme, que ce soit au niveau.
Et comment vous expliquez le fait que certains ont construit même sur des collecteurs?
Mais c'est justement ce que nous sommes en train d'évoquer. Le fait de construire sur un cours d'eau, sur les lits d'un cours d'eau, c'est la même chose, ou sinon plus grave que de construire sur un collecteur. Le collecteur est prévu, calculé, dimensionné pour drainer les eaux d'une section de la ville en vue de les déverser vers un autre déversoir prévu ou bien un déversoir naturel à cet effet. Mais quand on construit sur un collecteur, moi je me pose la question, est-ce que les services habilités, on parle du service de l'urbanisme essentiellement, ne sont-ils pas au courant? Ou bien, comment cette personne qui a construit sur les collecteurs a pu obtenir les documents lui permettant
le permis
de construire pour construire son édifice à cet endroit? Ce sont des questions qu'on se pose. C'est comme ça que je disais tout à l'heure, je crois le dernier intervenant qui a dit pour lui que la responsabilité est simplement au niveau de l'État. Moi, je disais que la responsabilité est partagée. L'État, bien sûr, mais aussi les populations. Mais nous devons souligner que la plus grande responsabilité incombe à l'État. C'est vrai, elle est partagée, mais la plus grande responsabilité incombe à l'État. Mmh. Parce que, au bout de la chaîne, du début jusqu'au bout de la chaîne en matière d'urbanisme, c'est l'État, l'impulsion vient au niveau du pouvoir public.
D'accord, on va accueillir Charles de Lumbashi, Kachai de Kanyuka et Roger Marcel de Kinshasa. Charles, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tout le monde.
Est-ce que là-bas, à Lubumbashi, il y a de temps en temps des inondations aussi?
Il y a de temps en temps des inondations, et surtout ces derniers temps. En tout cas, nous nous préparons. On ne sait pas ce qui nous arrive dans un bref temps ici, parce qu'il pleut tant mal. Il fait même toute une journée, voire même toute une nuit, en train de pleuvoir toujours. En tout cas, on se promène avec la paire au ventre, monsieur Jody.
Bien.
Allez-y. Une question à l'hésiter. En tout cas, dans des émissions, on a toujours condamné la population pour rien. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi les travaux effectivement bien rendus par les Chinois ainsi que les consorts là, est-ce que de la même façon que ça ne traîne pas ici chez nous, l'état des routes, canalisations et consorts, de la même façon que ça ne traîne pas, ça ne tire pas ici chez nous? C'est aussi le cas dans d'autres pays africains ou bien dans d'autres pays du monde. C'est la même situation ou bien ici chez nous, ils font des choses là à la hâte. Parce que condamner la population, c'est bien beau. Mais l'état de nos routes aussi, vous verrez, à peine réhabilité, quelques jours après, monsieur Jody, ça commence déjà à se rétrécir, ça commence déjà à s'abîmer. Est-ce que, et c'est là qui nous font aussi, qui arrive aussi à nous faire ces services-là, ils arrivent vraiment à bien l'effectuer ou ils sont en train de bricoler, de fabriquer des choses-là qui ne sont pas à la hauteur vraiment? Moi, je pense que la population, bien sûr, mais c'est l'État aussi de contrôler. L'État est en train de dépenser autant de moyens. Mais si l'État ne fait pas ce sujet-là, moi je pense que c'est inutile. Comme si on continuerait à verser toujours de l'eau sur les dos du canal. Moi je pense que la population, s'il faut la condamner, peut-être à 1%, mais c'est jeudi. Voilà un peu, merci beaucoup.
Merci Charles de Lumbashi, Kachai de Kanyuka. Bonjour.
Bonjour monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour à monsieur l'invité de la radio Kabine.
Bien, Kachai, selon vous, comment prévenir les inondations et les dégâts qui peuvent s'en suivre?
Merci beaucoup monsieur Jody. Vous, je vous félicite toujours parce que vous avez des thématiques liées à la vie quotidienne des Congolais et surtout des villageois de Kanyuka. C'est que nous vivons ici. C'est ce que vous vous débattez là-bas à Kinshasa, monsieur Jody.
Alors, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu une inondation là-bas, à Kanyuka.
À Kanyuka, ce matin, il y a deux enfants qui sont entre la mort et la vie parce qu'un mur de leur maison construite en briques adobe est écroulé sur eux à cause de l'eau inondée dans cette bicoque-là, monsieur Jody. La maison se trouve à côté du ruisseau. Vous comprenez? C'est à Kanyuka. Déjà au village, quand il y a des gens qui construisent au bord du ruisseau, le ruisseau inonde les maisons. Les maisons là construites en briques adobe, vous comprenez que ce sont des maisons qui ne sont pas construites en matériaux durables et elles peuvent être démolies à tout moment et surtout que l'eau a une forte pression. Monsieur Jody, la forte concentration au centre-ville expose certains Congolais, les Kasaïens, à beaucoup de risques comme l'inondation là. Parce que quand quelqu'un n'a pas un espace, il va chercher à acheter le lit des ruisseaux, il va construire là-dessus, les ingénieurs vont venir, les architectes vont venir avec leur intelligence pour lui dire que nous sommes capables de construire ici et on va construire avec des bétons, tu vas habiter. On lui donne l'argent, il construit, il part, quelques années après, c'est des cris et des grincements dedans. Moi, ce que je demande, c'est quoi, monsieur Jody? La fois passée, quand je parlais de la gestion des eaux, de la pluie, parfois, les techniciens de l'OVD m'avaient taxé de quelqu'un qui les accuse auprès du pouvoir. Mais en connivence avec les pouvoirs, ils nous ont torpillés ici. Lorsqu'on ne sait pas gérer l'eau produite par la pluie, monsieur Jody, surtout que nous sommes pendant cette saison pluvieuse, en tout cas, nous allons toujours continuer à tout moment de...
À déplorer ce genre de situation.
Oui. Alors, que faire? Plus on avance de 100 mètres, on recule de 1000 mètres.
Kachai, selon vous, faut-il détruire les constructions anarchiques, les démolir, ou il faut tout simplement redimensionner les canalisations d'eau?
Monsieur, je dis, devant la mort, on ne négocie pas. Et l'État ne peut pas pleurnicher devant les plaintes des gens. Lorsque la décision est prise, elle est prise dans l'intérêt de la population. Si on prend la résolution de démolir pour préserver la vie, où est le mal? Alors, c'est bien de prendre de telles décisions courageuses, parce que les gens ne peuvent pas toujours mourir. Parce que quand il y a inondation, monsieur, je dis, quand il y a mort d'homme, c'est l'État qui va venir avec les actions humanitaires. L'argent qui peut résoudre un problème déjà prévu, alors il sera orienté vers un problème qui n'était pas même préparé. Alors vous voyez que c'est une perte inutile. Moi, ce que je propose, c'est la démolition de toutes les maisons construites anarchiquement.
Bien, alors, merci.
Je ne puisse pas toujours donner des portions de terre au centre-ville, alors qu'à Kanyuka, il y a des espaces. Que les gens viennent même à Kanyuka, non? S'ils viennent habiter à Kanyuka, où il n'y a pas des inondations, nous allons cohabiter avec eux pacifiquement.
Merci, Kachai de Kanyuka. Roger Marcel de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis bonjour à notre invité.
Bien, alors dites-nous, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les inondations et tous ces dégâts que nous déplorons?
Oui, monsieur Jésus, vous savez, dans notre pays, on a trois ministères, le ministère de l'urbanisme et habitat, le ministère de décentralisation, il y a encore le troisième affaires foncières.
Il y a aussi l'aménagement du territoire.
Oui, l'aménagement du territoire. Et ce que moi, je me demande, est-ce que ces quatre ministères-là, ils ont vraiment un plan pour notre pays? Parce que aujourd'hui, quand on constate, les gens construisent dans des endroits vraiment terribles. Aujourd'hui, si vous venez vers la route vers l'université, vous allez voir quelque part, il y a l'extension totale. Il y a un petit rivière là qui était là, mais ces derniers temps, il n'y a pas moins. Si vous passez, il y a vraiment de l'eau sur la route. Les gens ont construit des maisons là. Moi, je me demande, quand les gens là viennent, ils construisent là-bas, est-ce que avant d'avoir quelque chose, notre État congolais ne prévoit pas aussi quelque chose? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment terrible. Il faut aussi se demander, notre État congolais pouvait au moins quand même prévoir au moins quelque chose, même des sanctions. Parce que c'est le même, quand qu'on, après la pluie, il y a toujours des inondations. Mm-hmm. Il faut voir même, après, il y a à Kinshasa, les rivières Koda, on a les rivières Kalam, les rivières Dili, vous allez voir, c'est tout près des rivières là que les gens construisent toujours. Moi, je me demande, avant que les chefs de l'État, quand dernièrement, il y avait un plan qu'on disait qu'à Kinshasa, on pouvait construire des nouvelles cités. Mais je sais que moi, je me demande aujourd'hui, nous partons jusqu'au cinquième an des chefs de l'État. On n'a pas encore vu quelque chose qui était prévu qu'on pouvait construire ça au niveau des Maluku. On n'a rien vu. Ce que moi, je me demande, quand il y a une population qui augmente, il faut que notre État congolais prévoie au moins quelque chose. Dis-nous,
bien sûr.
Au lieu que les gens puissent encore habiter dans ces endroits, on doit créer de nouvelles cités. On doit créer pour que...
Créer de nouvelles cités, comme ça les gens vont libérer...
Les gens vont libérer ces endroits.
Les espaces qu'ils ont occupés, allez là-bas. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Ingénieur Vanel, à vous la parole.
Je crois qu'il faudrait revenir sur une chose. Il y a l'auditeur, le premier intervenant de cette série qui a dit que moi, je ne condamne que la population pour lui, il estime que la responsabilité incombe au pouvoir public. Je dois préciser une chose, je ne condamne pas la population. Ou bien je ne mets la responsabilité pas tout simplement sur la population. Je dis que la responsabilité est partagée. Et d'ailleurs, je dis que même étant partagée, elle incombe le plus à l'autorité publique. Mais que la population a aussi une part de responsabilité dans ce qui arrive. Je vais prendre un exemple très simple. Prenons les cas, même quand nous parlons d'aménager des nouvelles cités, on appelle ça un urbanisme des villes nouvelles. Mmh. Maintenant, on construit une ville nouvelle à
même Maluku. D'une nouvelle ville de Kinshasa pour désengorger, c'est trop saturé ici, trop de bouchons, etc.
C'est vrai, si on entre dans ce débat, on va encore aller très loin.
Oui.
Mais disons qu'on lève cette option. On construit une ville nouvelle à 20 km, 100 km du centre-ville de Kinshasa. Prenons cet exemple. Et que dans cet aménagement, on érige les ouvrages d'assainissement, on respecte les plans d'urbanisme, on respecte les prescrits d'urbanisme. Tout est en place. On dit vraiment, on constate que c'est vraiment une vie harmonieuse. Parce que l'urbanisme vise à ce qu'il y ait une vie harmonieuse dans la cité. Et c'est ce que les gens, les occupants vivent. Si la population n'a pas conscience que ces cadres, ces nouveaux cadres agréables ne peuvent subsister que s'il y a une certaine conscience collective. Pas seulement que l'autorité soit là pour administrer la localité, la nouvelle cité, mais aussi que nous puissions nous-mêmes avoir en tête que ces ouvrages, cet environnement que nous avons, nous devons contribuer à la protéger. Si on n'a pas cette conscience-là, mais les problèmes que nous déplorons maintenant à Kinshasa, c'est ce qu'on retrouvera 5 ans plus tard. Peut-être même 5 ans, c'est beaucoup, dans cette nouvelle...
Dans la nouvelle cité-là.
Ça sera ça.
Donc, on peut comprendre que la démographie grandissante fait qu'aujourd'hui, les ouvrages d'assainissement ne répondent plus.
Entre autres, les ouvrages d'assainissement ne répondent plus là où elles existent. Mais pour l'essentiel de la ville de Kinshasa, nous manquons cruellement des ouvrages d'assainissement. Donc les ouvrages d'assainissement ne répondent plus là où elles existent. Non seulement qu'elles ne répondent plus, mais elles sont aujourd'hui aussi maltraitées, si je veux dire, par la population que nous sommes. Donc je crois que c'était très important de revenir là-dessus. Mais j'ai suivi les deux derniers auditeurs parler des sanctions, disant que non, l'État devrait normalement prévoir des sanctions. Ben, la sanction, elle existe dans la loi.
C'est laquelle?
Et l'arrêté, je faisais tout à l'heure allusion à la loi foncière et à l'arrêté 0021 du 29 octobre 1993 qui dit exactement ceci, que quand on construit sur les servitudes publiques, c'est-à-dire les emprises de cours d'eau,
les zones non édifiantes,
oui, disons non édificant, ça c'est non édificant, c'est beaucoup plus large, mais la loi précise que quand on construit sur les servitudes publiques,
oui,
l'État vient démolir. Et quand l'État vient démolir, l'État démolit aux frais de celui qui a construit. C'est ce qui prévoit la loi.
C'est-à-dire c'est que lui qui doit financer le démolissement.
Toi qui as construit de manière anarchique, là. Quand l'État vient de démolir, c'est toi qui dois financer. Donc tu n'as même rien à réclamer à l'État. Par contre, c'est l'État qui doit te réclamer des moyens pour venir détruire ta maison. C'est ce que la loi prévoit. Mais maintenant,
Mais dans la pratique, ça se fait comme, ça se passe comme ça?
Dans la pratique, c'est autre chose. C'est autre chose que nous constatons.
Oui.
Je dirais que c'est un cercle. C'est un cercle vicieux. Si au départ, on ne prend pas en compte la nécessité d'avoir des outils d'urbanisme à jour et la volonté de les faire respecter, nous allons toujours revenir sur ça. Vous vous rendez compte que les interventions de tous les auditeurs tendent à dire pratiquement la même chose, c'est-à-dire l'anarchie. Et cette anarchie, nous la subissons aujourd'hui, et nous subissons les conséquences de cette anarchie. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous n'avons pas de guide. En urbanisme, une ville, il faut avoir un guide. Le guide, c'est les plans d'urbanisme. Ça, c'est pour la plupart des villes du pays. Pour Kinshasa, nous en avons. On l'appelle les SOSAC, les schémas d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa. Malgré les faiblesses qu'on peut lui imputer, les SOSAC ont le mérite d'exister. Et dans les SOSAC, nous retrouvons même un PP, un plan particulier d'aménagement pour la partie nord. C'est-à-dire que ça prend la Gombe, la commune de Lingwala et les autres communes frontalières à la Gombe. Mais est-ce que ces plans d'aménagement est respecté? Est-ce que d'abord
est-ce que ce plan est connu?
Justement.
Oui, est-ce que c'est le problème?
Mais est-ce qu'il est respecté d'abord? Avant même d'être vulgarisé, même si elle n'est pas vulgarisée, c'est essentiel, mais est-ce qu'au niveau de ceux qui doivent l'appliquer, est-ce que ces plans...
Ne faut-il pas revoir ces plans-là, l'adapter à...
Bon, les SOSAC est prévu à court jusqu'en 2030.
C'est jusqu'en 2030?
Jusqu'en 2030. Et je crois que c'est normalement, on devrait déjà en ce moment commencer à réfléchir sur la pré-SOSAC, parce qu'il y a des villes du monde où les plans d'urbanisme sont revus quasiment tous les ans. Je vais prendre l'exemple de Shanghai. À cause de la dynamique démographique, économique et des interactions et des enjeux énormes par rapport au développement de cette ville, les plans d'urbanisme à Shanghai sont revus quasiment tous les ans. Mais pour nous, les SOSAC est une loi. Donc la loi, c'est un édit de la ville-province de Kinshasa qui prévoit que les SOSAC accourent à Kinshasa jusqu'en 2030. Mais
il y a même des gens qui vont aménager, construire dans des zones, sur des zones collinaires qui étaient protégées par les arbres, etc. On va tout couper et puis on construit, et quand il y a une forte pluie, c'est fini. Il y a des éboulements.
Mais c'est comme ça que j'étais en train de dire, référons-nous au plan d'aménagement. Les plans d'aménagement, en son sein, comportent ce qu'on appelle, vous avez évoqué ça tout à l'heure, des zones non édificantes. Ça veut dire que ce sont des espaces dans la ville, mais où les plans prévoient qu'on ne peut pas construire. Qu'importe la raison, non, moi, peu importe votre position.
On ne peut pas construire là-bas.
Je suis ceci, moi, je suis cela. Non, on ne peut pas construire. Parce que l'autorité, les techniciens savent que construire dans de tels endroits, même si vous avez le moyen de faire une construction qui soit solide, qui soit stable, mais vous exposerez et vous exposerez votre voisinage, vous dégraderez l'environnement. On interdit de construire là-dessus. Si on se réfère au plan qui existe, je peux vous assurer que nous allons réduire de manière alors considérable tous ces problèmes d'urbanisme que nous connaissons dans la ville de Kinshasa.
Bien, on va accueillir Godet de Kikwit, ingénieur John de Kindu, et puis Serge Kingi de Lubumbashi. Nous parlons de la prévention des inondations et des dégâts qui s'en suivent généralement. Serge Kingi, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, c'est plutôt à Kindu Manyema aujourd'hui.
Serge Kingi, oui, vous êtes plutôt à Kindu Mulungé, on vous écoute.
Oui, Kindu Mulungé. Je salue l'invité. Nous félicitons le sujet du jour. Par rapport à votre question face à ce qui concerne la construction anarchique, ce n'est pas seulement au niveau au bord de rivières ou de fleuves Congo. Nous déplorons aussi ce qui s'est fait au niveau des cimetières et des journalistes. Bien que ce n'est pas le sujet du jour, mais la faute incombe à nous-mêmes qui achetons des parcelles dans les lieux très déplorables, très non indiqués, mais aussi dans des lieux qui ne sont pas appropriés. Entre autres, il y avait l'inondation ici au niveau du fleuve Congo. Je vous donne par exemple. Lors de l'inondation, les services attitrés de protection civile étaient venus là voir même l'autorité provinciale, le gouverneur des provinces, étaient venus voir comment est-ce que les maisons étaient écroulées. Et juste après, on avait donné quelques fonds, l'autorité provinciale a même disponibilisé l'espace au niveau derrière l'aéroport, là où chacun peut aller prendre sa parcelle pour construire et laisser cet espace vert là, parce que peut-être tôt ou tard, il y aura encore débordement de l'eau. Mais si vous venez aujourd'hui, je vous assure, vous trouverez que ces espaces-là sont occupés et que les mêmes gens ont encore...
Ils sont encore revenus.
Mode de vie.
Oui.
Ah ouais, à ce même lieu-là. Alors, moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sanctions là-dessus par rapport à ça, parce qu'il y a déjà une décision de l'autorité provinciale, a déjà donné les fonds à donner pour que vous changiez au moins cette parcelle. Pour que le pire n'y arrive.
Mais les gens ne veulent pas partir. Voilà,
je ne sais pas si l'État congolais a prévu quelque chose là-dessus,
oui,
par rapport à cette situation.
Merci,
mais face à ma question, est indiquée à notre invité. J'aimerais peut-être qu'il puisse nous éclaircir par rapport à la loi portant protection de nos parcelles, ou soit des gens qui vendent des parcelles illicitement, les gens des urbanistes. Est-ce qu'ils ont leur loi qui les interdit au moins à vendre les gens des parcelles dans des espaces non indiqués? Parce que ce qui se fait, en tout cas, voir à ciel ouvert ici, c'est du n'importe quoi.
Merci, merci beaucoup. Monsieur Serge Kingi, on va accueillir Godet de Kikwite. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, je ne sais pas, vous organisez cette émission comme si vous êtes prophète ou comment? Hein? Donc, quand vous organisez l'émission, les dégâts qui sont se trouvent dans la ville de Kikwite.
Qu'est-ce qui s'est passé à Kikwite? Qu'est-ce qui s'est passé à Kikwite?
Nous, vers les 12, le météo nous a prophétisé que la ville de Kikwite, vous faites attention, du 15 au 16, il y aura un grand feu qui va pleuvoir et il y aura des dégâts, ça va causer des dégâts. Monsieur les journalistes, au moment que je vous parle, depuis les 12 jusqu'alors, on ne dort pas, on a peur de la pluie. Mais la pluie, que tu n'as pas encore prévoir, Dieu nous protège. Ici, à la ville de Kikwite, il y a des dégâts. 2022, je vous ai parlé que vers 2030, la ville de Kikwite, je ne sais pas, ça peut se retrouver comment. Il y a des dégâts. Et jusqu'alors que je vous parle, les gens sont en train de construire, même au bord de la rivière Kouilou, même au bord des ravins, pour être en train de chercher la solution pour enterrer ça. Mais les gens achètent. Vous arrivez là, vous demandez à l'entité qui vous a vendu ici. Ils vous présentent les documents sur des cadastres de l'État. Vraiment, c'est ce qui est avec ces honteux. Alors, je demanderai à l'invité, est-ce que l'État est souverain? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de commander, donc de canaliser, même on a construit en anarchie, de canaliser, de détruire d'autres maisons qui étaient construites en anarchie, de canaliser des canaux, tout pour que la ville du Kikwite puisse être vraiment bien dirigée.
Bien, merci. Il n'y a pas moyen, mais merci Godet. Et généralement, quand il y a des pertes en vie humaine, des dégâts, c'est sous le coup de l'émotion, voilà, on compatit, et après, il n'y a pas de suivi, et on revient à la case de départ. On va terminer avec l'ingénieur John de Kindou. Bonjour.
Merci beaucoup. Merci, bonjour, merci pour la parole.
Quelle est votre question, ingénieur?
Voilà. À propos des inondations, ici chez nous à Kindou, il y en a. L'État ne donne pas du travail aux techniciens, voilà. Tout ce qu'il faut retenir. Vous allez voir, par exemple, sur le dalles de Mikelenge, au point où cette rivière sépare la commune de Kasuku à la commune de Mikelenge, il y a toujours des inondations, c'est-à-dire l'entreprise chinoise qui avait construit la route en ce point-là n'a pas bien étudié les points que nous appelons les tirants d'eau. Donc il n'y a pas eu une marge suffisante qui pourra permettre à l'eau de passer sous l'ouvrage pendant de grandes crues. Voyez ça. Donc, mais en plus, quand je regarde le gouvernement, je trouve qu'ici chez nous, les politiques ne donnent pas du travail aux techniciens. Regardez la Hollande, les Pays-Bas. Les digues, donc les modèles mathématiques que nous avons étudiés en écologie pour prévenir les temps qu'il faut et à tout moment, donc il faut renforcer les digues quand les mauvais temps s'annoncent. Mais regardez en Dubaï,
D'accord.
Par exemple, The Palm Island, ce qu'on appelle l'île de Jebel Ali, hein, qui est une île.
D'accord. Merci. On a pris beaucoup de temps. On a retenu votre préoccupation. Les techniciens sont là, mais l'État ne recourt pas aux experts dans les domaines. Ingénieur Vanel, vous êtes urbaniste, je vous le rappelle. Okay. Vous avez suivi les auditeurs, etc., les différentes réactions. Bon, on va conclure. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre les inondations, prévenir les inondations et les dégâts, comme on l'a dit?
Oui, pour prévenir, lutter efficacement contre les inondations, moi je crois que la réflexion peut aller sur des volets. Premièrement, prendre les mesures, mettre en place des actions urgentes, c'est-à-dire écurer les caniveaux, construire les ouvrages d'assainissement là où il n'y en a pas, et démolir les constructions anarchiques érigées sur les lits des cours d'eau. Mais au-delà, il faudrait maintenant aller au-delà, c'est-à-dire avoir une réflexion profonde sur comment agir pour que ces drames à répétition cessent de frapper, pas seulement la ville de Kinshasa, nous l'avons suivi, c'est pratiquement tout le pays qui est concerné. Mmh. Je dirais maintenant il faudra revoir et renforcer la réglementation en matière d'urbanisme dans le pays. Il faudra aussi prendre en compte le fait que le dernier intervenant l'a dit, prendre en compte l'effet de mettre, donner la place aux techniciens, aux spécialistes par rapport à tout ce qui concerne l'aménagement urbain, les services de l'urbanisme, et au ministère des infrastructures, au ministère, au service des affaires foncières et même de l'aménagement du territoire. Donner la place aux techniciens, à ceux qui ont le profil requis. Mais aussi et surtout, moi j'ai toujours prôné là-dessus, c'est avoir et mettre en place des agences d'urbanisme dans chaque province, pourquoi pas dans chaque territoire, peut-être qu'on y arrivera, que ces agences d'urbanisme peuvent servir des références techniques, dans le sens où les autorités de nos ETD peuvent faire recours à eux pour avoir des conseils spécifiques sur une question ou sur une autre, en matière, pas seulement pour la lutte contre les inondations, mais en matière d'aménagement urbain de manière générale. Mmh. Donc, je crois que nous
pouvons... Et il faut sanctionner les agents véreux des cadastres qui vendent là où il faut pas.
Bon, moi je crois que la loi du pays existe, les sanctions existent en cas si cela est avéré. Je pense que l'arsenal juridique du pays existe et que s'il faut faire recours à cet arsenal, il faudra faire recours à cet arsenal. Mais seulement, je voudrais aussi répondre rapidement à la question d'un des intervenants qui disait « Est-ce que nous avons une loi qui interdit l'aménagement ?» dans des zones interdites. C'est vrai, nous avons la loi foncière qui existe des 73 et j'ai cité tout à l'heure l'arrêté 0021 du 29 octobre 1993 qui fait suite à cette loi qui prescrit de manière claire et nette quelles sont les zones qu'on peut occuper et comment on peut les occuper. Merci.
Bien, monsieur Vanel Mundimbi, je rappelle que vous êtes urbaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler des inondations.
Merci.